en Philippiens 4:4, nous allons trouver le verset de ce matin. Il est dit là, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Ce n'est pas la seule fois que Paul dit cela. Il est dit aussi dans le deuxième chapitre, dans le troisième chapitre, maintenant dans le quatrième chapitre. Il veut que tout le monde se réjouisse dans le Seigneur. Tous les chrétiens se réjouissent dans le Seigneur. Il y a un mot là, quand même, qui trouble beaucoup de gens. Ils préfèrent que Paul dise « Réjouissez-vous souvent dans le Seigneur ». Ou réjouissez-vous, même très souvent, mais il dit « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et beaucoup le trouvent difficile. Même il y a des gens qui se demandent si c'est possible. Comment un homme peut-il se réjouir dans toutes les circonstances? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous savez que ce n'est pas simplement une possibilité de se réjouir toujours, c'est un ordre, c'est un commandement venant du Seigneur. Réjouissez-vous. Et ce matin, c'est ça que nous allons proposer de faire, c'est de se réjouir dans le Seigneur. Vous dites, oui, mais je ne sais pas comment faire, et peut-être à la longue, vous allez mieux comprendre, parce que tout ce message sera concentré sur cette idée de se réjouir dans le Seigneur. Vous savez, je n'ai jamais eu le privilège de voir une des îles autour de Grèce, de la Grèce. Mais il paraît que quelques-unes d'entre elles sont de véritables paradis. Et je peux imaginer l'apôtre Paul assis là dans une de ces îles, sous un arbre, en train de regarder la végétation et surtout la Méditerranée. Et là, en écrivant cette lettre, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. » Mais vous savez, mes chers amis, que même un athée, dans des circonstances semblables, pourrait écrire autant. C'est loin de là. Paul n'était pas assis sous un arbre, dans une île à côté de la Grèce, mais plutôt dans une prison à Rome, dans une cellule humide, sombre, ne sachant pas ce qui lui arrivait, si on allait le mettre à mort ou non. Et là, dans des circonstances affreuses, il dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. » Vous savez, il est difficile de trouver des circonstances pires que cela. Si l'apôtre Paul pouvait dire « Réjouissez-vous », il était là tout content, tout content. Est-ce que vous avez subi autant que lui? Est-ce que vous pouvez dire que vos circonstances sont pires que la sienne? Si lui pouvait se réjouir dans des circonstances semblables, cela peut nous encourager de faire autant. Vous savez, nous hésitons toujours devant des versets semblables de savoir exactement ce qu'il faut faire. Mais vous savez, ce n'est pas simplement les paroles qui sont intéressantes, mais les conditions dans lesquelles les paroles sont écrites, ça donne tout le relief. Quelqu'un qui est dans une situation agréable, qui dit « réjouissez-vous », ça n'a pas le même effet que quelqu'un qui est en prison qui dit « réjouissez-vous ». Donc les circonstances donnent tout le relief à ces paroles. Je pense à Fanny Crosby. Fanny Crosby, une Américaine, née aveugle, a accepté le Seigneur par la suite, et puis, avec un don extraordinaire, a commencé d'écrire des cantiques. Vous savez que beaucoup de nos cantiques en anglais vient de cette femme aveugle. Elle a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Elle a dit que je suis contente d'être née aveugle, car le premier visage que je verrai sera celui de mon Sauveur. Vous savez, quand je chante « Voir mon Sauveur face à face », oh oui, je pense à moi quand je le verrai, mais je pense toujours à cette femme. Et ça donne tout le relief. Voir mon Sauveur face à face. Oui, réjouissez-vous. C'est un ordre. C'est intéressant comment Dieu utilise des insectes, des animaux, pour nous parler. Il dit, par exemple, au paresseux, « Va voir la fourmi. » Parce qu'elle travaille durement pour préparer pour l'hiver. Et si vous n'avez jamais vu des fourmiers, ils étaient nombreux là devant ma maison, donc j'ai pu les observer. Ils ne cessent pas de travailler. Donc un paresseux a beaucoup à apprendre d'une fourmi. Mais il y a beaucoup d'autres, par exemple l'agneau. Vous savez, ils sont tellement mignons, les agneaux. Les enfants aiment les prendre dans leurs bras. Et pendant des siècles, les Juifs ont immolé les agneaux par des milliers, des milliers, des milliers. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et ce sang a coulé pour que leur péché soit pardonné. Et c'est quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur, il a dit, voici l'agneau, non pas celui qui couvre le péché, mais qui ôte le péché. Si vous n'avez jamais vu vos péchés ôtés, si vous n'avez jamais goûté la joie du Seigneur et de salut, je vous invite ce matin de rester après la réunion et de dire, aujourd'hui, je veux avoir la vie éternelle. Je veux connaître ce que ça veut dire de goûter ce que Dieu a planifié pour moi depuis des siècles, la vie éternelle par le sang de Christ. Puis il y a le lion qui, c'est le contraire. La première fois que Christ est venu, il est venu comme l'agneau. On pouvait faire de lui ce qu'on voulait. Le gifler, arracher les poils de sa barbe. On pouvait se moquer de lui. On pouvait cracher dessus. Il était l'agneau. Mais quand il reviendra la prochaine fois, il ne reviendra pas comme un agneau. Il viendra comme le lion de la tribu de Juda. Et cette fois-ci, c'est lui qui juge. Je pense à Pilate. Jésus était devant Pilate. Pilate était le juge. Mais la prochaine fois, ça sera Pilate devant Jésus. Et tout homme va fléchir le genou. Ou on fléchit le genou devant l'agneau, et on a la vie éternelle. Ou on fléchit le genou devant le lion, et on sera perdu pour l'éternité. Voilà la différence. Oui. Il y avait aussi l'histoire de cet homme, ce général, qui était en train de perdre la guerre. Il avait déjà perdu 3 batailles. Il était allé dans une maison, oh là là, vous savez, quand les armées passent, non seulement que les habitants n'y sont plus, mais même les meubles ne sont plus. Tout est fini. Il est allé dans une de ses maisons, ne sachant pas quoi faire. Il s'est assis par terre. Pendant qu'il était là en train de réfléchir à ce qu'il devait faire, ses yeux ont vu une araignée. Et l'araignée a essayé de sauter de là à là, avec le premier fil de sa toile. Alors, elle saute et elle manque et elle tombe. Il a dit, elle me ressemble, moi aussi. Hein, j'ai sauté, je suis tombé. Mais alors, il réfléchit encore, puis tout d'un coup, il regarde. L'araignée est là de nouveau. Et elle saute de nouveau, oh, elle rate et elle tombe. Oh, ben alors, c'est moi, bien sûr. Alors, quelque temps après, l'araignée de nouveau, au même endroit, j'ai dit, voilà, elle est persistante. Elle saute, mais cette fois-ci, elle s'accroche. Et puis, elle a commencé à faire, donc, sa toile. Il a dit, j'ai perdu. Mais cette araignée m'a appris quelque chose. Persévérer. Il se levait, il a rallié ses troupes, ils sont allés en avant, ils ont attaqué, et la fin de l'histoire, c'est qu'il a remporté la guerre. Vous savez combien de fois on s'arrête trop vite, hein? Il faut persévérer, il faut continuer à poursuivre ce que le Seigneur nous a confié. Oui, quand ma femme et moi ont décidé d'acheter une maison en Caroline du Sud, nous avons trouvé que derrière la maison, il y avait une petite forêt. Alors, cette forêt, avec des arbres très, très hauts, meublés par les oiseaux. Il y avait des centaines d'oiseaux là. Et le matin, première lueur de lumière, juste à peine un oiseau le voit, commence à chanter. Ah, et là, il réveille tous les autres, mais tout le monde chante dans les arbres parce que c'est le jour, parce que le soleil luit. Vous savez que ces oiseaux nous ressemblent. Quand le soleil se lève, quand nos journées sont belles, on chante, on est content. Mais vous savez que Dieu, dans sa grâce, encore un autre animal, cette fois-ci un oiseau, le rossignol. C'est l'oiseau qui chante pendant la nuit. Tous les autres oiseaux chantent le jour. Mais Dieu a fait le rossignol pour que nous le ressemblions. Que quand tout va mal, quand on a envie plutôt de pleurer que de se réjouir, on chante pendant la nuit. Et vous savez que quand on chante dans la nuit, ça a un effet. Quand les gens regardent, parce que quand on passe par des épreuves, tous les yeux sont fixés. Comment va-t-il réagir? Lui qui dit « Réjouis-toi toujours dans le Seigneur », est-ce qu'il va faire autant? Alors il regarde, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, laissez-moi vous dire ceci, c'est que quand on perd quelqu'un qu'on aime et qu'on pleure, ça c'est normal. Si on ne pleurait pas, ça veut dire qu'on ne l'aimait même pas. Marie et Marthe ont pleuré leur frère. Même Jésus a pleuré au tombeau. Mais parce qu'on pleure là, à ce moment-là, ça ne veut pas dire que la joie n'est pas là. La joie est là quand même. La joie peut être là quand même. Et là, on en vient bientôt à voir comment ça peut se faire. Vous savez, il y avait quelqu'un qui a chanté pendant la nuit. C'était l'apôtre Paul, de nouveau. Il est allé à Philippi. Et là, il a prêché, il a terminé avec Silas. Ils ont parlé à travers toute la ville. Les gens les ont suivis, les gens ont accepté le Seigneur, mais les autorités les ont pris, l'ont jeté en prison. Ont mis leurs pieds au cep, ils ont battu avec des verges, probablement leur dos était couvert de sang. C'était au milieu de la nuit, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais vous dites, mais bien sûr, ils ont dit, mais voilà ce que le Seigneur nous donne, parce qu'on est fidèle, voilà. Voilà ce qu'on accepte quand on est fidèle au Seigneur, le fouet, les cèpes, la prison. Mais comment ça se fait que Dieu ne nous récompense mieux que ça? Et au lieu de se plaindre, comme nous d'ailleurs, au lieu de se plaindre, Paul et Silas ont chanté dans la prison et Dieu se joint à eux. Il a fait trembler la terre. Les portes se sont ouvertes, les ceps sont tombés, et il y a un homme qui crie « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Paul cite ce verset, cité dans le monde entier depuis, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. » Cet homme a cru. Ses enfants, qui étaient certainement assez grande pour comprendre aussi, ont accepté le Seigneur. Et cette nuit même, toute la famille fut baptisée. Dieu agit quand on chante pendant la nuit. Vous savez, je crois que si nous, comme les chrétiens, on mettait en œuvre ce que Dieu nous donne dans sa parole, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si on faisait cela, je suis sûr que Dieu ferait trembler les gens. Il y aura les tremblements de terre, même dans le cœur des gens, et ils commenceraient à se tourner vers le Seigneur. Il y a trois questions qui sont posées concernant ce verset. Je vais prendre la première. C'est que les gens disent, est-ce que Dieu veut qu'on soit des hypocrites? C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un me vole mon portefeuille, j'avais 200 euros dedans, et je dois dire, Seigneur, merci, oh que je suis content, qu'il a trouvé le moyen de piquer mon portefeuille. Seigneur, merci, merci, je te remercie. Alors là sera l'hypocrisie totale. Mais au contraire, on ne se réjouit pas de ce qui était fait, mais malgré ce qui était fait. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à pleurer, à se lamenter, on dit, Seigneur, tu es le même, et je suis toujours joyeux. Amen. Oui, c'est ça. Pourquoi? Je vais vous dire, il y a une base de notre joie. La base de notre joie ne dépend pas des circonstances ponctuelles. C'est-à-dire que, notre patron dit, je vais augmenter votre salaire. Voilà, c'est pas difficile de se réjouir. Voilà, c'est bien. Ou il dit, voilà, je n'ai plus besoin de vos services, passez à la caisse. Alors là, on est très à plat. Que ça soit l'un ou soit l'autre, la joie ne doit pas partir. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est que rien n'a changé. C'est-à-dire que la base de notre foi, de notre joie, ne dépend pas des circonstances actuelles, mais sont basées sur des choses immuables, qui ne changent pas. Par exemple, je suis toujours sauvé. J'ai toujours la vie éternelle. J'ai toujours le Saint-Esprit en moi. J'ai toujours la Bible. J'ai toujours toutes ces promesses. J'ai la promesse qui va venir me chercher, que je serai au ciel pour l'éternité. Mais ça ne change pas. La base reste pareille. Nous sommes ses enfants pour l'éternité. Et notre joie dépend de cela, non pas de ce qui se passe autour de nous. C'est pour cela qu'on peut, Dieu a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il a dit ça par la bouche de Paul, par la plume de Paul, mais c'est une vérité. C'est une vérité, on doit pouvoir se réjouir à n'importe quel moment. Il y a un verset aussi qui nous aide à comprendre cela plus loin. C'est que dans la deuxième partie du chapitre 5 de Galates, Paul nomme toutes les œuvres de la chair. Après quoi, il mentionne le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, dit-il, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, etc. Alors, quand on trouve toute une liste, on peut se poser la question, comment se fait-il que nous disons le fruit de l'esprit, Et puis, il y a toute une liste qui suit. Il y a une erreur là. Est-ce que le traducteur a mal traduit? Non. Dans le grec, c'est pareil. Ça dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Alors, comment on peut expliquer cela? C'est que, laissez-moi vous donner une illustration qui m'aide beaucoup. Le fruit de l'esprit, c'est la harpe de l'amour. Je le répète. Le fruit de l'esprit, c'est la harpe de l'amour. Or, une harpe a des cordes. Et tout ce qui suit sont des cordes de cette harpe. Et le Saint-Esprit, quand on est près de lui, il joue sur les cordes de la harpe. Il les touche toutes, même les dernières cordes, il les touche aussi. C'est une symphonie avec une musique telle que ça attire du monde. Notre vie devient une harmonie, une symphonie pour sa gloire. Parce que tous ces éléments qui suivent, la bonté, la patience, ah, quelqu'un dit, mais la patience, je l'ai sans avoir tout le reste. Parce que moi, je ne suis pas comme les autres. Je ne m'énerve pas quand je suis dans la salle d'attente chez le docteur. Moi, je peux attendre mon tour gracieusement. Oui, mais la patience dans cette liste ne s'agit pas de cela. Cette patience-là veut dire j'attends l'accomplissement de la promesse que Dieu m'a donnée. Car quand vous lisez la Bible et quand vous restez devant lui, dans la prière, cherchant sa volonté, il met dans votre cœur exactement la chose qu'il faut, la promesse qui est à vous, afin que vous puissiez dire, Dieu m'a dit, il va me donner ceci, ou il va me donner cela. Et quelquefois, donc la patience est obligée d'entrer en jeu immédiatement. Quelquefois, on attend toute une journée pour l'accomplissement de la promesse. Quelquefois, c'est plus qu'une journée, c'est une semaine. Quelquefois, c'est une année. Mais Dieu m'a promis. Je sais qu'il va me le donner. Je sais qu'il va le faire. Il me l'a promis. Il nous a promis telle ou telle chose. Il nous a donné cette promesse et c'est gravé dans notre esprit. Il y avait un verset que j'ai lu, ou que nous avons lu, où Dieu nous a dit, c'est ça, c'est ma promesse à vous aujourd'hui. Accrochez-vous à cette promesse. Et nous nous accrochons et nous nous attendons. Vous vous souvenez d'Abraham, quand Dieu lui a dit, tu auras un fils. Oh là là, il était vieux quand même, hein? Il avait 75 ans. Alors d'avoir un fils à 75 ans, c'est... Donc il attendait le fils, bien sûr, l'année suivante. Mais le fils n'est pas venu l'année suivante, ni dans les 10 années suivantes. Abraham a attendu 25 ans pour la promesse, mais il l'a eu. Isaac est né, la promesse était là. Dieu joue sur toutes les cordes de la harpe pour que de notre vie sortent des choses merveilleuses. Et vous dites, oui, mais... est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait empêcher cela? Oui, ça j'arrive. Mais j'aimerais d'abord répondre à la deuxième question. La deuxième question, c'est, est-ce que la joie peut être cachée? Parce que ma joie est profonde. Et moi, je n'arrive pas à faire sortir la joie. Est-ce que la joie peut être cachée? Je dirais plutôt que la paix peut être bien cachée, la paix de Dieu. Mais même là, ça se voit sur la sérénité du visage. Mais la joie ne reste pas cachée. La joie, David a dit, ma coupe déborde. Quand on a la joie du Seigneur, mais ça se voit. Et c'est ça qui attire. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Quand on a la joie de Christ, mais on n'a peur de rien. On y va. On a cette joie qui nous soutient. Ça fait partie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette joie. Et cette joie est profonde. Et elle sort comme une fontaine de notre vie. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent l'empêcher? Oui. Si on attriste le Saint-Esprit, on a la harpe, mais le Saint-Esprit ne joue pas dessus. Tant qu'on n'a pas réglé la chose avec le Seigneur. Si nous vivons dans le péché, si nous avons des choses cachées dans notre cœur, si Dieu nous a demandé de faire quelque chose et nous avons dit non, et nous vivons dans la désobéissance, ça attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut jouer sur la harpe, mais il ne peut pas. Il faut que le ciel soit bleu. Il faut qu'il n'y ait rien entre nous et Dieu. Et quand il n'y a pas de péché, quand on est dans sa présence, oh, le Saint-Esprit touche les cordes, toutes les cordes et toutes ces merveilleuses grâces qui sont mentionnées comme le fruit de l'Esprit commencent à se voir. La bonté et en toutes choses, nous sommes transformés. Vous dites, oui, mais moi, je ne suis pas sauvé. Est-ce que je peux avoir quand même cette joie profonde? Non. C'est réservé aux gens qui ont dit, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Et si vous êtes en train d'entendre ma voix et vous n'avez jamais ouvert votre cœur à Christ, il n'est pas votre Seigneur et votre Sauveur, je vous prie maintenant de baisser votre tête et de prier avec moi. Priez cette prière avec moi. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai fait des choses contre toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai fait faillite si souvent. J'ai besoin de ton esprit à moi. Pardonne mes péchés. Seigneur, je t'accepte dans mon cœur et dans ma vie. Et je sais que tu vas entrer. Je sais que tu vas me pardonner, que tu vas me donner une nouvelle vie. Et pour cela, Seigneur, je te remercie. Amen. Amen. Nous allons terminer là.